Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 9h30. Ce journal vous est présenté par Enes Dridelli.
Bonjour Clément, bonjour à toutes et à tous, voici les titres du jour à la une de ce journal. Cette semaine, c'est la semaine européenne de la prévention de l'information sur l'endométriose. C'est une maladie qui, nous le verrons, mérite encore plus d'attention. Dans la suite de notre dossier de la semaine, nous verrons si l'interdiction de jeter ses vêtements à la poubelle est vraiment utile pour lutter contre la fast fashion. Et hier avait lieu le discours de Donald Trump au Congrès. Analyse de cette déclaration dans ce journal. Comme dit en titre, c'est la semaine européenne de la prévention et de l'information sur l'endométriose. Cette maladie touche une bonne partie de la population puisque 10% des femmes qui sont en âge de procréer sont atteintes. Pourtant, le public a encore besoin d'être informé sur la maladie, Lauriane.
L'endométriose n'est pas une nouvelle maladie, les Grecs et les Égyptiens l'évoquaient déjà. Pourtant, ce n'est que récemment que notre société contemporaine a commencé à lui accorder l'attention qu'elle mérite, un retard qui s'explique par plusieurs facteurs. Docteur Pierre-Arnaud Godin, chef de service du Centre liégeois de l'endométriose.
C'est une maladie d'abord qui ne concerne que les femmes et donc qui a été laissée très fort de côté pendant de nombreuses années. Et puis il faut pas oublier que les femmes ont une capacité de gestion de la douleur différente de celle des hommes. Il y a des familles avec des femmes qui ont des règles douloureuses, hein, et donc la maman va expliquer à sa fille que c'est normal parce qu'elle en a toujours eu, sa grand-mère en a eu, et sa mère en a eu et tout ça. Et donc il y a une espèce d'acceptation de la douleur, je pense, qui est propre à la féminité.
Et dans ce mouvement de reconnaissance, la France est meilleure élève que la Belgique.
En France, on a beaucoup parlé d'endométriose, puisqu'il y a pas mal de vedettes qui se sont trouvées de l'endométriose et qui ont relayé ça via les associations de patientes. Le politique s'en est chargé aussi. Par exemple, les centres de prise en charge de l'endométriose en France, ils sont reconnus. Et donc, on en a parlé de plus en plus en France, et puis petit à petit, c'est arrivé en Belgique avec aussi des associations de patientes.
Les semaines de prévention comme celle-ci restent essentielles puisque l'endométriose est encore trop méconnue du public.
Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, que ce soit au niveau politique ou au niveau prise en charge médicale et diffusion des conséquences de la maladie, de ce que c'est, que les patientes et les mamans aussi, puisque parfois ça débute très jeune, soient vraiment informées de ce qu'est la maladie, pour qu'on puisse faire un diagnostic très précoce. Plus le diagnostic est fait précocement, plus on instaure des traitements préventifs, au moins les conséquences seront importantes.
Dans le reste de l'actualité, John Cockerill, le groupe liégeois, a signé un accord avec une entreprise en Inde. C'est un contrat d'armement. La filière défense de la société sérésienne pourra entamer la production de tourelles de chars en Inde. Ces tourelles pourraient donc équiper les chars indiens en vue d'améliorer la surveillance de leurs frontières communes avec la Chine. À noter qu'une partie du processus de production se fera à Liège. La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région Wallonne mettent fin au financement de 4 structures collectives d'enseignement supérieur. Cela concerne 4 grandes villes wallonnes, dont Liège avec la plateforme JobSkills. Cet arrêt des subsides provoque des pertes d'emplois, mais aussi la perte d'une aide pour les universités et hautes écoles dans l'encadrement des citoyens en formation. Le cabinet du ministre wallon du budget, Pierre-Yves Jaoulet, justifie ces suppressions par un excès de concurrence. Pour rappel, jusqu'à ce vendredi, nous nous intéressons chaque jour à la problématique de la fast fashion. Et à cause de cette pratique, les vêtements sont produits abondamment avec une qualité médiocre. Certains consommateurs ont donc pour habitude de jeter leurs vêtements usagés à la poubelle. Mais depuis le 1er janvier 2025, une directive européenne l'interdit, sauf si les textiles sont mouillés ou souillés. Le but, promouvoir le recyclage. Cette nouvelle interdiction pourrait-elle aider à lutter contre la fast fashion, Clément ?
Ce qui est certain, c'est que cela va être difficile. La fast fashion reste un problème toujours bien présent. Chaque année, cette industrie produit 92 millions de tonnes de déchets textiles. Cette nouvelle directive européenne est certes un grand pas en avant, mais elle ne fera sans doute pas le poids face à la fast fashion. Jonas Dambourg travaille au sein du groupe Terre, actif en Wallonie et à Bruxelles. Ce sont notamment ces bulles de collecte bleues qui avalent nos sacs de vêtements usagés.
La fast fashion, le problème, il se trouve plutôt au niveau de la production des vêtements à la base. Et donc, c'est surtout là-dessus, selon nous, qu'il faut avoir un impact. Maintenant, le fait peut-être que ça peut promouvoir le recyclage, peut-être un petit peu la réutilisation. Mais la fast fashion, c'est plutôt le nœud du problème. Il se situe en amont, au niveau de la production. On gère un peu ce qui est en aval.
En 2024, à cause de la fast fashion, le groupe Terre a connu une augmentation drastique du niveau de collecte. 88 tonnes de textiles usagés était collecté par jour de travail.
Ça, c'est au niveau Wallonie et Bruxelles, au niveau de nos 2500 bulles. Et donc, oui, 88 tonnes par jour, bah, c'est du boulot. Et ça ne va qu'en s'intensifiant. Effectivement, la fast fashion a une influence là-dessus. On reçoit de plus en plus de vêtements. Mais le problème, c'est que la qualité ne suit pas de ces vêtements. Et donc, c'est là tout le problème.
On peut tout de même espérer une chose, que cette directive européenne change les mentalités, en mettant en lumière l'importance de la seconde main.
Et à l'international cette nuit, Donald Trump a prononcé son discours inaugural au Congrès, un événement qui a profondément divisé Clémence.
Effectivement, un discours plus que clivant devant un Congrès divisé, mettant en avant sa vision d'un retour en force des États-Unis. Il a affirmé que son administration avait accompli en 43 jours, plus que d'autres, en plusieurs années. Ce qui a été acclamé par les républicains, évidemment, tandis que les démocrates ont hué et protesté, entraînant même l'expulsion d'un élu. Il a défendu sa politique économique et migratoire, se félicitant notamment de l'expulsion de migrants en situation irrégulière et de sa lutte contre le wokisme. Son discours a été marqué par de vives oppositions, certains démocrates quittant même la salle en signe de protestation.
Ensuite, alors que quelques jours plus tôt il y avait une altercation entre Trump et Zelensky, Trump a annoncé que l'Ukraine serait prête à négocier avec la Russie.
Selon une lettre de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine serait prête à négocier, mais aussi prête à signer un accord sur l'exploitation des minerais. Il a affirmé que la Russie envoyait des signaux forts pour la paix. Par ailleurs, Trump a relancé l'idée d'une annexion du Groenland, suggérant que ses habitants pourraient rejoindre et choisir les États-Unis malgré l'opposition du gouvernement groenlandais. Enfin, il a défendu sa politique protectionniste, augmentant les droits de douane sur les importations canadiennes, mexicaines et chinoises. Il a reconnu que cela pourrait causer des perturbations, mais a assuré que les États-Unis deviendraient ainsi plus riches. Cette annonce a contribué à une baisse de la bourse de New York.
Et on poursuit l'actualité encore et toujours avec Trump, dont les propos sur la Palestine ont été condamnés par les pays de la Ligue arabe.
Réunis ce mardi lors d'un sommet au Caire, les dirigeants des pays arabes ont averti contre une tentative odieuse et de déplacer le peuple palestinien. Cela fait écho à l'idée du président américain. Pour rappel, Donald Trump proposait de placer la bande de Gaza sous contrôle des USA et d'exclure ses habitants pour les envoyer vers l'Égypte ou la Jordanie. A noter qu'à l'issue de ce sommet, l'idée de créer des fonds, un fonds destiné à financer la reconstruction de la bande de Gaza, a été adoptée. Durant cette période de reconstruction, le territoire serait administré par un comité de technocrates palestiniens.
Et on conclut cette page internationale avec un retour en Europe et une scène interpellante en Serbie pour le premier jour de session législative.
Oui, le Parlement a été le théâtre de protestations de la part de membres de l'opposition. Ces derniers ont allumé des fusées éclairantes et jeté du gaz lacrymogène. Des œufs et de l'eau ont également été envoyés sur les membres du gouvernement. Cette attitude des opposants s'explique par leur soutien aux protestations dans les rues. Depuis plusieurs mois, la Serbie connaît des manifestations anticorruption, l'élément déclencheur était l'effondrement du toit d'une gare ferroviaire. À Novi Sad, cet incident avait fait 15 morts.
On passe à présent au sport en Ligue des Champions. Le club de Bruges s'éloigne malheureusement des quarts de finale de la compétition, Lauriane.
Oui, les Blauwenzwart affrontaient hier le club anglais d'Aston Villa pour les huitièmes de finale aller. Ils étaient pourtant bien partis pour un partage sur le score d'un partout, mais ils ont fini par craquer en fin de rencontre, offrant un autobut et un pénalty aux Anglais. Score final 1-3. Les hommes de Nicky Hayen devront vraiment compter sur un miracle pour se hisser en quart de finale dans quelques jours.
Et en cyclisme, Mathieu Van Der Poel a remporté la première course wallonne de la saison GP Samin.
Il s'impose après 199 km entre Quarion et Dour. Il a attaqué à plusieurs reprises avant de l'emporter au sprint. Arnaud Delui, quant à lui, a été gêné par un problème mécanique et termine 14e.
Et en tennis, clap de fin pour le joueur de tennis Gauthier Onclin lors du tournoi Challenger de Thionville.
Le Liégeois, et qui est classé 212e mondial, s'incline au premier tour face au Russe Alibek Kiatchmazov. La partie s'est achevée sur le score de 6-2-6-3 en 1h20. Un autre Belge est aussi engagé dans le tournoi. Il s'agit d'Alexander Bloks, qui a 19 ans. Il débutera son tournoi mercredi contre le Suisse Jakub Pohl.
Merci beaucoup Lauriane, et c'est déjà la fin de ce journal.
Merci Inès, rendez-vous demain, même heure et même fréquence. Très belle journée à toutes et à tous sur 48FM.